c'est finalement ce soir que l'Assemblée nationale se penchera sur le projet de loi constitutionnelle sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. L'examen du texte avait été repoussé d'un jour. Ce midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, nous avons parlé de l'augmentation du prix des carburants, en cause le conflit au Moyen-Orient qui impacte jusqu'en Nouvelle-Calédonie. La semaine de l'entrepreneuriat, la CCI, pour accompagner les gérants de sociétés dans leur parcours souvent semé d'embûches, se referme ce soir. Près de 250 Calédoniens y ont participé. Plus que quelques jours avant de pouvoir déguster les chocolats de Pâques, les maîtres chocolatiers s'affairent depuis plusieurs semaines pour proposer les meilleures gourmandises aux petits comme aux grands. Le sport, des Calédoniens à la conquête d'un titre de padel à Tahiti, 6 des meilleurs joueurs du territoire vont participer à la Pacific International Padel Cup. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est finalement ce soir que l'Assemblée nationale va commencer l'examen du projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Il devait débuter la nuit dernière pour nous, mais l'ordre du jour a été bousculé. Et finalement, c'est à 11h, heure de Paris, et il sera 20h en Nouvelle-Calédonie, quand les députés se saisiront du texte de loi. Mais Elisabeth Noir, le débat pourrait tourner court.
Cela pourrait aller très vite, en effet, si la motion de rejet préalable est adopté. La séance débutera, vous le disiez, à 11h à Paris et c'est la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui défendra le texte, mais juste après, le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou, qui siège dans le groupe communiste, répondra par le dépôt d'une motion de rejet préalable. Une motion de rejet qui sera soumise au vote des députés et qui devrait être adoptée à la majorité. Les quatre groupes de gauche, le Rassemblement National et le groupe Liot devraient en effet voter pour le rejet. Dans ce cas, le débat s'arrêtera là et le texte sera immédiatement transmis en seconde lecture au Sénat. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a dénoncé par avance un tel scénario. Il a déclaré hier sur X que cette motion de rejet serait une forme de motion de mépris pour les signataires de l'accord de Bougival. On peut être favorable ou s'opposer à cet accord, l'amender ou non, le voter ou non, ajoute Sébastien Lecornu, mais il serait impensable que ce texte soit rejeté sans examen, sans aucun débat préalable, sans aucune discussion de fond. C'est pourtant ce qui va vraisemblablement se passer, d'autant plus que Marine Le Pen a confirmé dans une déclaration que son groupe voterait cette motion de rejet. Mais le député Emmanuel Tchibaou préfère rester prudent tant que le vote n'a pas eu lieu.
Le seul juge, c'est le vote. C'est la mobilisation des élus au moment du scrutin où ils vont faire valoir ses positions politiques. Moi, je ne peux pas me prévaloir d'un scrutin qui n'a pas eu lieu. Je vais juste prendre acte de la position de ce groupe pour les motivations qu'ils ont déjà exprimées par ailleurs, mais j'attendrai demain pour déterminer la suite. Au terme du vote, si elle est adoptée, la motion de rejet préalable, je solliciterai le gouvernement pour demander la tenue des élections provinciales conformément à la loi et puis après engager pour nous la suite du processus qui est la suite des négociations.
Et si jamais la motion de rejet n'était pas adoptée, l'examen du projet de loi serait de toute façon entravé par les plus de 3000 amendements qui ont été déposés. De son côté, la ministre des Outre-mer met en garde dans une interview à Ouest France. Naïma Moutchou déclare que s'il y a une motion de rejet, on installe le vide politique parce qu'il n'y a pas d'alternative à l'accord de Bougival. Pour elle, la consultation directe des Calédoniens est une option qui n'est pas écartée. Plusieurs options sont en tout cas sur la table. Elles ont été examinées hier lors d'une réunion que le Premier ministre a tenue avec les signataires de l'accord de Bougival, présents actuellement à Paris, parmi eux le député Nicolas Metzdorf.
On a été reçu par Sébastien Lecornu hier, quand je dis on, c'est la délégation de l'UNI et moi-même pour les loyalistes, pour faire un point sur la situation. Donc l'idée, c'est de continuer les tractations pour essayer d'éviter le vote de la motion de rejet et de discuter des options qui sont sur la table en cas d'acceptation de la motion de rejet par l'Assemblée. On a pas mal évoqué différents scénarios, tous sont sur la table. Moi, j'ai dit à Sébastien Lecornu que nous, on envisageait deux choses de possibles, soit une consultation décalée sur l'accord de Bougival, soit à des élections provinciales avec une ouverture du corps électoral, tout en sachant que le gouvernement peut très bien décider aussi d'organiser des élections provinciales avec un corps électoral gelé, ce qui n'est pas évidemment acceptable pour nous.
L'examen du projet de loi constitutionnelle débutera donc ce soir pour nous et on saura dans la soirée si la motion de rejet a effectivement été adoptée.
Dans l'actualité judiciaire, Sonia Baquès a été relaxée par la 17e chambre correctionnelle de Paris. La présidente de la province sud était poursuivie pour diffamation par Christian Théin.
Le leader de la CCAT avait attaqué Sonia Backès en diffamation pour des propos qu'elle avait tenus en septembre 2024 sur RTL. Elle avait qualifié Christian Théin de chef des terroristes. L'affaire était jugée hier à Paris par la 17e chambre correctionnelle qui déclare que ces propos relèvent de la polémique politique et non de la diffamation. Maître Rémi Laurin et Maxime Voss, les avocats de Sonia Backès, se réjouissent bien sûr de cette décision et ils rappellent que le débat démocratique ne doit pas être entravé par des poursuites infondées. Sonia Backès, de son côté, salue cette décision de justice. Dans un communiqué, elle affirme que les responsables publics doivent pouvoir s'exprimer librement et avec clarté lorsqu'il s'agit de qualifier des situations engageant la sécurité des Calédoniens et l'avenir du territoire. Après ce jugement de la 17e chambre, les avocats de Christian Théin et le ministère public ont 10 jours pour faire appel.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la réponse à notre question d'hier. Tous les auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent que l'association Un cœur, une voix a raison de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la France en raison du gel du corps électoral. Et notre question du jour concerne la politique nationale. Êtes-vous favorable à une primaire de la droite et du centre pour désigner un candidat unique à la présidentielle ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Si vous y êtes opposé, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Des discussions décisives cette nuit à Paris pour l'usine du Sud, NBM, groupe émirati qui cherche à racheter les 74% de parts de PRNC qui sont à vendre, a rencontré le ministre de l'économie Roland Lescure à Paris, Jean-François Bodin.
Le groupe pourrait officialiser une reprise en juin si toutes les conditions sont réunies. La loi du pays modifiant le code minier qui permet l'exportation du minerai fatal a été adoptée en deuxième lecture cette semaine. C'était l'une des conditions pour attirer et garder les repreneurs éventuels. Reste le sujet de la trésorerie et de la dette de l'usine du Sud qui pourrait être tout ou partie effacée. Et enfin, la stabilité politique qui jouera forcément un rôle majeur dans la prise de décision de NBM qui est le seul repreneur en discussion depuis l'an dernier. La due diligence devait prendre fin en juin 2025 puis en décembre 2025. Elle s'est finalement terminée mardi.
Notez maintenant ce rendez-vous d'antenne. C'est le nouveau président du MEDEF, Bertrand Courte, qui sera demain l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur la façon dont il envisage ses nouvelles fonctions et bien sûr sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et ses perspectives ou encore sur le pacte de refondation. Bertrand Courte, invité de Transparence, c'est à suivre demain à midi, juste après notre édition de la mi-journée. La hausse du prix des carburants alimente bien des conversations. Elle est bien due à la guerre au Moyen-Orient, y compris en Nouvelle-Calédonie. Les impacts économiques de cette guerre étaient au cœur ce midi des jeudis de l'économie. Radio Rythme Bleu, Jean-François.
Au 1er avril, le prix des carburants, notamment de l'essence et du super, ont bondi respectivement de 15 et 19 %. Une hausse brutale comme on n'en avait pas connue depuis bien longtemps. De nombreux Calédoniens se demandent si cette hausse est bien liée à l'augmentation du prix du baril sur le marché mondial en raison de la guerre au Moyen-Orient. Oui, nous a dit le directeur général de Shell Pacifique, René Ferré. Et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, a-t-il expliqué, a anticipé une forte hausse attendue au mois de mai.
Il y a eu une anticipation de la grande marche qui va avoir lieu au mois de mai. Et en fait, le gouvernement a décidé de le faire en avance, parce qu'on a les chiffres définitifs pour le mois de mai. La marche est très haute.
C'est-à-dire qu'il y aura une autre augmentation en mai, hein, vous pouvez le confirmer dès
oui,
aujourd'hui.
Oui. Alors, elle sera rabotée de l'augmentation qu'il y a eu sur le mois d'avril, bien évidemment. Mais elle est importante également.
Et nous avons demandé au directeur général de Shell Pacifique si les compagnies pétrolières qui opèrent en Nouvelle-Calédonie profitaient de cette hausse des prix pour accroître leurs bénéfices.
On va être très clair là-dessus. La marge des pétroliers, elle est en francs litres. Que le prix vaille 1000 francs ou qu'il vaille 100 francs, on a exactement la même rémunération. Et c'est exactement pareil pour le gouvernement d'ailleurs. Il y a juste la TGC à 3%. Mais c'est des taxes solides, donc la rémunération ne varie pas avec le prix du carburant. Alors, on entend bien que c'est un problème calédonien. Hein. On ne parle pas de ce qui se passe en amont sur les raffineries, avec les marges et les raffineries, de ce qui se passe sur les puits de pétrole quand on vend un baril beaucoup plus cher. Ça n'a rien à voir. Nous, on travaille dans un cadre réglementaire, on achète le produit tant. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie décide du prix à la pompe. Et nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus.
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de coûts fixes qui n'évoluent pas, quel que soit le prix du marché. Ce qui fait la différence, c'est le prix du marché.
Oui, oui, tout à fait. La grosse variable, ça reste ce qu'on appelle le prix CAF, le coût assurance et fret. C'est la grosse variable. Derrière, ça bouge pas.
Cette hausse du prix de l'essence n'a pas pour l'instant d'impact sur le fret et l'approvisionnement par voie maritime. Pour l'instant, les compagnies maritimes assurent le service à coût constant, a expliqué Frédéric Pierson, le président du SPADET, le syndicat professionnel des agréés en douane et des transitaires.
Pour le moment, on peut se rassurer parce que les compagnies maritimes principales ne passent pas par la mer Rouge et l'étroit d'Ormuz ou ces endroits-là. Ça passe par le canal de Panama ou le cap de Bonne-Espérance. Donc ça ne devrait pas avoir d'impact régulier ou en tout cas à très court terme. Ce qui peut changer, c'est les éventuels risques de guerre ou les surcharges carburant. Mais pour l'instant, elles ne sont pas prévues. Et puis, il y a aussi des protections qui sont faites par l'État et des vérifications. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de risque d'augmentation de fret à court terme. Si le conflit devait durer, peut-être que ça se fera, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas.
Il y a quelques jours, le gouvernement avait rassuré les Calédoniens en leur disant que les stocks d'essence étaient suffisants pour éviter toute pénurie. C'est vrai pour l'instant, mais les choses pourraient changer pour une raison que nous a expliqué René Ferré, le directeur général de Shell Pacifique.
Il y a un petit problème quand même. Aujourd'hui, on nous oblige sur le territoire à prouver qu'il n'y a pas de molécules russes dans les hydrocarbures que nous importons. Par contre, l'Europe achète librement du gaz à la Russie. Il n'y a pas de problème. Mais nous, petit territoire perdu dans l'océan Pacifique, il faudrait qu'on respecte des règles. Donc ça pose un problème de fond, parce que vous comprenez bien que quand le marché est fluide à Singapour, il n'y a pas de problème pour la traçabilité du produit. Il y a des cuves de produits qui viennent du Moyen-Orient, c'est clair, c'est net. Quand on est en situation de flux tendu comme en ce moment, les gens achètent ce qu'il y a. Du coup, le brut qui est acheté avant d'être donné aux raffineries, on ne sait plus d'où il vient. Il peut venir de Russie ou il peut venir du Venezuela ou d'ailleurs. Donc, la Nouvelle-Calédonie va être confrontée à ce problème de pénurie s'il n'y a pas un changement de réglementation sur le territoire qui permette d'apporter du produit sans certificat. Parce qu'on ne sait pas s'il y a des molécules russes dedans ou pas, mais on ne peut pas le prouver. Voilà, donc la problématique, elle est là. Si on continue à être bloqué sur ces positions-là, ça posera un problème certainement à partir de juillet.
Des extraits des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu auxquels participait également John Choupi, le directeur de la DAE, la Direction des Affaires Économiques de Nouvelle-Calédonie. Émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Dans le contexte international actuel, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie appelle à une mobilisation collective pour une consommation d'énergie responsable. Lorsque cela est possible, il est demandé aux Calédoniens de limiter leurs déplacements non essentiels, privilégier le télétravail, courir au covoiturage et favoriser l'usage des transports en commun. Souhaitant être exemplaire, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va également engager ses directions et services à renforcer les mesures de sobriété énergétique, mais aussi à adopter ses démarches responsables. Clap de fin pour la semaine de l'entrepreneuriat à la CCINC. Depuis mardi, la Chambre de commerce et d'industrie propose des divers ateliers et conférences pour faire avancer les projets d'entrepreneurs calédoniens. Un programme danse était proposée, mini-conférences, rencontres et témoignages avec des professionnels du secteur. Une aide précieuse quand on connaît la difficulté d'entreprendre seul. Elisa Mougel, présidente de la Chambre des notaires, était l'une des intervenantes ce matin.
La conjoncture actuelle n'est pas forcément très bonne pour se lancer dans la création d'une entreprise. Pour autant, ceux qui veulent se lancer, il faut qu'ils soient accompagnés et il faut qu'ils aient des bons relais au niveau de la CCI, de tout ce qui est administratif et puis aussi des bons contact au niveau des professionnels, que ce soit notaire, avocat, banque, etc. Et de regrouper tout en un lieu pour leur permettre de leur faciliter la tâche et de leur donner les bonnes choses pour anticiper la création.
Il s'agit de la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat sur le territoire. Près de 250 personnes ont participé à ces 3 jours d'événements. Un engouement qui satisfait Benoît Dunoguès. Il est responsable du département gestion des entreprises à la CCI.
Bilan positif puisqu'on a eu de nombreux participants donc sur nos 2 matinées au sein des conférences, avec un gros succès aujourd'hui, notamment sur la thématique de la session reprise, où un sujet qui intéresse grandement, on ne s'attendait pas à avoir autant de participants intéressés. Alors déjà, cette année, on va renouveler le format de l'événement sur d'autres thématiques, notamment la semaine de l'export, la semaine du développement durable ou autre. Donc on a un programme qui est déjà fixé tout au long de l'année. Et oui, donc pour l'année prochaine, on va repartir sur, vu le succès de cette première édition, on va partir sur quelque chose de, alors peut-être pas d'identique au niveau des conférences, mais en tout cas sur le même format, sur 3 jours d'échanges, de conférences et de témoignages d'entrepreneurs.
L'événement s'achève ce soir à la station N avec un dernier échange et un bilan de ces 3 jours. À la suite de l'incident technique ayant récemment affecté le service de messagerie électronique Canel, l'entreprise apporte des précisions. Cet incident est intervenu dans le cadre de l'installation nécessaire de nouveaux serveurs. Un enchaînement d'incidents techniques internes a alors conduit, selon les cas, à la perte partielle ou totale de messages pour certains utilisateurs. Aucun piratage, ni accès non autorisé, ni divulgation de données à des tiers n'a été constaté. La confidentialité des échanges n'a à aucun moment été compromise. Dans un souci de transparence et d'accompagnement, une procédure interne permet au client de déposer un ticket de réclamation auprès du service client. Canel s'engage à apporter une réponse à chaque réclamation. Chaque situation sera étudiée individuellement avec la volonté d'apporter une réponse juste et adaptée aux personnes impactées. 18h passées de 1 minute, première pause dans ce journal. À tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Vous êtes client EEC ? Rejoignez le club EEC. Vous y trouverez des jeux, des astuces, des cadeaux et plein d'avantages. C'est gratuit, 3 clics pour activer votre compte.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Info soir, Léana Colombo.
Aujourd'hui, cela fait 1 mois que le déménagement d'Hercal de Magenta vers la Tontouta est effectif. Cela fait également 1 mois que les aérodromes des îles Loyauté sont bloqués. Aucune liaison n'a donc été effectuée depuis la Tontouta à destination de Marais, Ouvéa et Lifou. L'île des Pins avait également bloqué son aérodrome, mais depuis vendredi dernier, après des discussions entre le collectif des usagers, le gouvernement et la province sud, les avions d'Air Calédonie ont finalement été autorisés à atterrir sur l'île. La situation d'Hercal sera également examinée au congrès demain. De nouvelles perturbations à prévoir dans les airs à la suite d'une panne technique survenue sur l'un des A330 Néo d'Hercal. La compagnie doit ajuster ses vols. Les vols Nouméa-Sydney, Nouméa SB140 et SB141 d'aujourd'hui sont assurés sur aéronef A320. Les vols Nouméa-Singapour, Nouméa SB740 et SB741 de demain sont suspendus et en attente de reprogrammation. La recherche et l'acheminement de la pièce concernée est en cours. Également, le Betticho reprend la mer demain. Après plusieurs semaines d'arrêt technique en raison d'un problème moteur, le bateau va de nouveau effectuer des liaisons avec les îles Loyauté. Nous en parlerons demain matin avec Édouard Castin, le directeur de la Sud-Île. L'occasion d'évoquer avec lui la situation des transports sur le territoire, mais aussi l'éventuelle arrivée d'un nouveau bateau dans les années à venir. Édouard Castin, invité du matin, c'est demain à 7h30. C'est aujourd'hui le jeudi saint, premier jour du Triduum Pascal, qui permet aux chrétiens de préparer la fête de Pâques et de se souvenir des derniers jours du Christ avant sa résurrection. Aujourd'hui, c'est le dernier repas du Christ et l'institution de l'Eucharistie qui était célébrée. Demain, c'est la passion et la mort du Christ que les fidèles commémoreront. C'est le sens du vendredi saint, rappelle le père Rokapikawa, vicaire général du diocèse de Nouméa.
Le Vendredi Saint, c'est le jour exceptionnel où on se remémore la passion du Seigneur, soit en suivant le chemin de la croix ou en restant chez soi et en méditant ce chemin que Jésus a parcouru pour nous. C'est le Vendredi Saint. Et le Samedi Saint, qui comporte surtout la veillée du soir. La veillée du soir, c'est ce qui termine le temps pascal. On veille ensemble pour écouter la parole de Dieu. On écoutera des grands textes, des moments importants de la vie du peuple de Dieu. Et au cours de cette cérémonie, les adultes qui se sont préparés à Pâques, qu'on appelle aussi des catéchumènes, sont baptisés dans cette nuit-là. Et s'ils le désirent, ils recevront les trois sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie.
Demain, vendredi saint, les fidèles sont invités à participer à deux cérémonies. L'une commémore le chemin de croix et la seconde est l'office de la croix. Et Pâques, donc, vous l'avez compris, c'est avant tout une célébration religieuse, mais c'est aussi la fête préférée des enfants pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent manger du chocolat. Et les adultes en profitent aussi pour se faire plaisir. Mais alors, Léo Fichou, quelle gourmandise nous préparent les maîtres chocolatiers du territoire pour l'occasion ?
Adresse réputée, les chocolats Morands, avec un savoir-faire artisanal que l'on retrouve dans leur création. Il y a par exemple l'œuf en nougatine qui requiert une certaine expertise pour être préparé, nous dit Ludovic Panier, le gérant de la maison Morand.
Alors nous, c'est quelque chose qu'on a appris à faire dans nos jeunes années, parce que c'est quand même assez ancien comme tradition. Et du coup, nous, on a encore la vieille machine en fonte qui se servait avant les artisans. Et on travaille encore avec ça, ce qui nous permet de réaliser des petits œufs et des grands œufs en nougatine. Parce que la nougatine, quand on la travaille, elle est très très chaude, elle a plus de 100 degrés. Donc c'est tout un art à apprendre à la travailler pour pas se brûler, pour pas que ça colle, pour que ça soit équilibré, quoi. Et voilà, on est content de garder les traditions et de continuer, que nos employés, nos apprentis continuent d'apprendre cette méthode traditionnelle.
Pose Chocolat NC travaille aussi un chocolat de qualité, un Guanara 70% pur chocolat et un Jivara lacté avec lesquels Jonathan Bataille et ses équipes préparent toutes sortes de sujets sucrés. Et cette année, il y a une nouveauté dorée qui se cache dans les paquets.
Grande nouveauté cette année, on a lancé un jeu exclusivement pour les clients de la boutique, les tickets d'or. Tous les moulages, tous les sujets, donc toutes les sortes de sujets, vous avez un ticket d'or à gagner et qui vous fait gagner des lots chocolatés de la boutique ou de pâtisserie ou de chocolat, mais de la boutique. Un petit ticket d'or à la Charlie et à la chocolaterie complètement, c'est complètement un clin d'œil. En plus, vous allez vraiment trouver des tickets d'or dedans, mais quelque chose de sympa pour les gosses quand ils vont trouver ça, même pour les adultes. Hein. Les adultes n'arrêtent pas de me demander, mais c'est où donc ? C'est dans toutes les formes de moulage, mais même nous, on ne sait plus où c'est maintenant.
À la Cabosse d'Or aussi, on prépare de bons chocolats. Il faut savoir produire vite, car les clients s'y prennent souvent à la dernière minute. C'est avec 1 à 2 tonnes de chocolat venu d'Europe que les équipes de Grégory Olot travaillent.
En fait, ça se passe toujours comme toutes les années où les gens se prennent à la dernière minute et on a un rush de clients les derniers jours. Donc, c'est une période où on n'est jamais sûr des ventes qu'on va faire parce qu'on fait énormément de volume en très peu de temps. Les chocolats de Pâques se destinent plus aux enfants, on va dire. Donc, on a un petit peu plus de chocolat au lait qui va se vendre. Mais après, il y a les puristes qui sont sur le chocolat noir. Après, on fait un peu de tout, on peut trouver de tout. En figurine, ça va du surfeur, au pingouin, au chaton, à la voiture. Mais ce qui fonctionne le mieux, ça reste les classiques, l'œuf, la cloche, le lapin et la poule.
Et puis, enseigne de chocolat incontournable sur le territoire, les cacaos du Pacifique. Après la destruction de son outil de production, l'entreprise se reconstruit toujours. Et pour l'instant, il n'y a pas de point de vente permanent. Mais à l'occasion de Pâques, l'entreprise a ouvert une boutique éphémère dans ses nouveaux locaux. À Nouville, nous dit Marie-Pascale Pérez, directrice commerciale, marketing et logistique des cacaos du Pacifique.
Alors, on a monté exceptionnellement une boutique éphémère parce que pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait prêt en termes de production. On a monté, pour le plus grand plaisir des consommateurs, cette boutique éphémère sur une durée de 10 jours, donc c'est ouvert jusqu'au 10 avril. On a importé un grand nombre de chocolats puisque notre outil de production a été détruit et on est en train de tout monter, hein, comme vous le savez. Donc on a des œufs pour la chasse aux œufs, on a des petits œufs à déguster, plutôt fourrage. On a pas mal de petits moulages avec différentes marques. Essentiellement, on a du Jaco, c'est moi, Milka, Ronan. On a des lapins décorés, on a des moutons décorés, des poules décorées. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choix.
Vous l'avez compris, il y a donc l'embarras du choix pour faire le plein de chocolat sur le territoire avant ce week-end de Pâques.
À l'approche du week-end de Pâques, la province Nord annonce la fermeture dès 15h30 demain de 14 CMS. Les centres médico-sociaux reprendront leurs activités aux heures habituelles le mardi 7 avril. La province Nord précise qu'en cas d'urgence, il faudra contacter le 15. De son côté, la province des Îles réorganise en raison d'un sous-effectif médical, les consultations à Lifou. Désormais, elles se feront les lundis et jeudis de 8h à midi à Oué et les mardis et mercredis de 8h à 13h à Répéné. Les urgences et les hospitalisations sont assurées uniquement au CMS de Wey. Et pas d'école le vendredi 15 mai, le lundi 13 juillet et le vendredi 25 septembre. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie communique sur l'organisation des ponts 2026 pour les établissements scolaires publics. Pour assurer une organisation claire, lisible et harmonieuse pour les familles, le gouvernement accorde 3 périodes de congés aux élèves du primaire et du secondaire, peut-on lire. Les établissements scolaires seront donc fermés les 14 et 15 mai, les 13 et 14 juillet et les 24 et 25 septembre. Bonne nouvelle pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Le projet de réparation des machines Perkins, machine à écrire le braille, s'est concrétisé en février dernier, Léo Fichou.
Oui, pendant 2 jours, les 16 et 17 février, Jérôme Kiosson, technicien dans l'imagerie médicale et qui répare aussi des machines de sport, a été formé intensivement, il nous l'a dit, par des experts venus de métropole à la réparation de machines Perkins. Ce jeudi, il a reçu son diplôme de réparateur niveau 1, et c'est le seul sur le territoire à pouvoir réparer ses machines à écrire le braille. Il n'a pas caché sa fierté, écoutez.
Oui, il y a de la fierté parce que les techniciens habilités à réparer ces machines ne sont pas très nombreux dans le monde. Des formateurs, il y en a 14 ou 15. On a eu la chance d'en avoir 2 sur le territoire. Ils ont une expertise extraordinaire avec des années d'expérience. Je n'irai pas jusque-là, mais au moins, il y a cette compétence qui est possible sur le territoire. Et puis, ça va aider des gens ici, donc c'est génial.
Vous parlez de compétences. Vous allez pouvoir réparer ces machines qui dormaient là, qui n'étaient pas réparées.
Alors, je vais tout faire pour. Il faut en manger pour continuer à connaître et à comprendre. Mais en tout cas, avec ces experts à disposition, même qu'ils soient en métropole ou partout dans le monde, on va tout faire pour que ça soit le mieux.
Jérôme Kiosson va désormais pouvoir entretenir et réparer les 12 machines Perkins sur le territoire. Une nouvelle qui ravit les personnes qui utilisent au quotidien ces machines à écrire.
18h11, seconde pause avant d'ouvrir notre page sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La fin de votre journal Le Sport avec Léana Colombo.
On parle athlétisme depuis 17h et jusqu'à 19h30, 20h. La Ligue calédonienne organise le Challenge Davy au stade Noumadélé. Une soirée hommage à Hugues Davy, fondateur de Track NC, ouverte à tous. Passionné, athlète, amateur et confirmé, mais aussi aux curieux. Des courses pour tous les âges et tous les niveaux sont proposés. Des jeux pour les enfants sont installés et de nombreux intervenants sont présents. L'entrée est à 500 francs. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. On termine avec du padel. 6 Calédoniens vont s'envoler demain pour la Polynésie française et participer à une compétition internationale, Léo.
Oui, Nicolas Godrella, Lionel Tri, Laurence Pesley, Christophe Souekarjan, Dana Branger et Stéphanie Dilucho seront engagés du 5 au 12 avril à la Pacific International Padel Cup. Après la Casino Padel Cup en novembre dernier sur les pistes du TC Montcoffin, l'échange entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française se poursuit, nous a expliqué Lionel Trille.
On avait invité Alain Sioux, qui est le président du Phoenix de Tahiti, et qui était un peu émerveillé de l'organisation et du monde de la Paddle Cup qu'on avait fait l'année dernière. Donc il s'est un peu collé à nous, il nous a demandé des conseils, même il a pris quelques joueurs à nous. Et au-delà de ça, évidemment, il nous a invités, nous les Calédoniens, pour se rapprocher évidemment avec Tahiti et l'Australie, dont on a 2 paires hommes qui partent demain et une paire femme. Moi, c'est la première fois que je viens à Tahiti, donc super content de voir nos cousins tahitiens. Moi, je veux évidemment créer du lien, parce que moi, je veux créer une Coupe Davis, si on peut appeler ça comme ça, autour du paddle, dans la zone un peu Australie, Indonésie, Japon et Chine, donc ce qui va me permettre de créer des liens et de connaître des gens là-bas. Et au niveau performance, moi je suis avec Nicolas Godrella, j'espère déjà sortir des poules, parce que je ne sais pas contre qui je vais tomber, et faire une petite demi, moi ce serait bien. Si Nico m'entend, évidemment, il voudrait gagner le tournoi, mais il y a quand même du lourd en face.
Une compétition qui, effectivement, rassemblera des dimanches sur les pistes de l'AS Phoenix à Tahiti les meilleurs joueurs du Pacifique, donc, mais aussi des paires espagnoles, australiennes ou encore de métropole. Nicolas Godrella sera associé, vous l'avez entendu, à Lionel Trille. Il se réjouit de retourner à Tahiti et espère faire mieux que l'an passé où il jouait avec Laurent Spesley.
Oui, je vais avec Lionel, on se connaît bien, on s'entraîne depuis un an ensemble tous les jeudis, donc on va essayer d'aller au contact, d'aller au combat. Et la deuxième paire, Lorenz et Christophe, est une très bonne paire. Ils nous ont mis une bonne petite rouste au dernier P500, donc on va essayer déjà d'aller représenter les couleurs, et si jamais on tombe sur Lorenz et Christophe, prendre notre revanche. Ça me tient à cœur parce que moi je suis né là-bas, et déjà en tant que tennisman, j'allais beaucoup là-bas. On a un grand respect avec les Tahitiens dans le tennis, et avec le padel, ils sont contents que je revienne. L'année dernière, on a perdu en demi-finale et on veut vraiment se racheter et essayer d'aller battre les Tahitiens et pourquoi pas les Espagnols.
Le départ est prévu demain matin pour les 6 Calédoniens. La Pacific International Padel Cup à Tahiti démarrera lundi pour les deux paires hommes et mercredi pour la paire féminine.
Merci Léo Fichou. On passe tout de suite à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre.
Cette nuit, sur le sud et l'est, le ciel restera nuageux avec des averses, parfois plus soutenues sur la pointe sud et la grande terre et le sud-est. Ailleurs, la nuit sera plus étoilée malgré quelques passages nuageux et une averse isolée possible. L'Alizé aura tendance à faiblir au fil de la nuit, restant proche de 15 nœuds et localement entre 5 et 10 nœuds sur la façade ouest. Les températures nocturnes, quant à elles, évolueront entre 22 et 25 degrés. Demain matin, le ciel sera peu à passagèrement nuageux. Les nuages resteront parfois plus nombreux sur la pointe sud, la côte est et le sud déloyauté, avec quelques averses isolées. L'Alizé de sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds et localement autour de 10 nœuds en matinée le long de la façade ouest. Côté mer, la marée sera haute à 20h40 puis basse demain à 2h40 avant de remonter pour une nouvelle pleine mer demain matin à 8h40. Et les niveaux évolueront dans l'ordre de 1m51, 48 cm et puis 1m54. Et côté ciel, ce sera la dernière lune montante. C'est la pleine lune, et quelle lune, presque pleine à 99,8%. Autant dire qu'elle ne se contentera pas d'éclairer la nuit, elle la fera rayonner comme si le ciel avait décidé, l'espace de quelques heures, de se tenir lui aussi en majesté.
Que c'est beau, j'espère que cette lune montante vous a entendu. Merci beaucoup Pierre, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.